au festival Trolls et Légendes avec Sir Cédric. Bonjour.
Bonjour.
Donc pour reparler de ton dernier roman, Le Jeu de l'ombre, puisqu'on en avait déjà parlé au Salon du Livre, je voulais commencer par les clins d'œil que tu as mis dans ton roman, en savoir si j'ai bien tout décodé ou pas. Puisque page 257, tu indiques « T'es mort, mais tu ne le sais pas encore ». Ça, c'est une référence directe à Ken le survivant ou c'est pur hasard ?
Oh mon Dieu, j'avais même pas fait attention. Mais alors, maintenant que tu le dis, non, j'étais un énorme fan du dessin animé il y a longtemps, quand j'étais petit, et j'avais totalement oublié. Mais tu as raison, ça pourrait. On peut voir, c'est peut-être au niveau inconscient un relent des prises magiques de Ken.
Sinon, t'as un personnage qui s'appelle Lenore. C'est forcément une référence à la bande dessinée américaine.
C'est une référence à plein de choses. Ça peut être Poe, ça peut être plein de choses. J'aime bien à chaque fois trouver des noms qui, même s'il n'y a pas de justification exacte ou de message codé, enfin, j'écris pas des livres à clé, c'est vraiment du divertissement. Mais quand je vais piocher dans mon imaginaire pour trouver des noms originaux et colorés, j'essaie à chaque fois d'avoir des termes qui peuvent évoquer plein de choses dans l'esprit des gens. Les noms me semblaient intéressants. Après, j'ai pas réfléchi pendant des jours et des jours pour trouver ça, puis c'est un personnage totalement secondaire, c'est l'attaché de presse du personnage Malco Swan, du musicien, mais comme le commandant Vauvert, comme un des personnages qui s'appelle Le Noir, voilà, j'aime bien les noms simples qui ont un impact dans notre imaginaire, même s'il n'y a pas d'explication claire, ça c'est évident.
Dans ce roman-là, il y a quelques rencontres qui se font justement entre Vauvert au fur et à mesure de l'enquête, avec, on va dire, des chiens. Donc je voulais savoir si l'expérience que vit Vauvert avec des chiens et le passage qui pour toi le fait définitivement passer dans la phobie de ces animaux, puisqu'on savait déjà qu'il avait une phobie avec les loups, ou est-ce que c'est simplement la goutte d'eau qui fait que... ou est-ce qu'il avait déjà cette phobie bien ancrée en lui et tu nous mets juste une petite touche là pour nous rappeler qu'il y a un petit souci
Mais en fait, alors, chronologiquement, le jeu de l'ombre se déroule après l'enfant des cimetières et avant de Fièvre et de sang. Et c'est vrai que ce qui est dit dans ce passage-là, c'est surtout que Vauvert, donc pour les, sans spoiler le roman aux lecteurs qui le connaissent pas encore, ce monsieur, ce commandant de police criminelle, se retrouve face à une médium qui lui dit des choses un petit peu troublantes, qui lui dévoile des événements, des choses un petit peu troublantes sur lui-même. Et en fait, lui fait remarquer qu'il fait souvent des rêves dans lequel il y a des chiens ou des loups, enfin ces silhouettes que Vauvert a dans ses cauchemars, mais depuis longtemps. Et en fait, elle lui sous-entend que ça fait partie de son destin. C'est plus ou moins ce qui va se produire dans De Fièvre et de Sang, qui se déroule après, où finalement, quand elle lui dit que ces chiens, ces loups viendront dans sa vie, qui font partie de son destin et qui vont le trouver un jour, ça fait directement allusion à ce qui va se produire. Mais en fait, ce que je disais dans ce passage-là, c'est vraiment que Vauvert a ses cauchemars depuis très longtemps. Puisque voilà, ce commandant de police a un don qu'il essaye de renier lui-même, il essaie de pas y penser, ça lui fait peur aussi. C'est une des raisons pour lesquelles il s'est conçu cette muraille autour de lui, parce qu'il a une sensibilité à fleur de peau qui fait que il lui aussi est capable de voir les émanations de l'autre monde.
Justement, ce petit... c'est pas un don de double vue, c'est pas vraiment des rêves prémonitoires, c'est tout bizarre en fait son pouvoir à Vauvert. Comment tu l'utilises toi? Parce que le développer trop, ce serait trop facile, c'est bon, je sais ce qui va se passer. L'utiliser pas assez, on se dirait à ce moment-là pourquoi il l'a, on s'en moque si c'est une fois. Comment tu mets la dose juste au bon endroit? Parce que des fois, ça va lui servir. Il va se dire, tiens, faut que j'aille de tel côté, ça peut être pas mal. En même temps, s'il y va, il va lui arriver des trucs qui sont pas cool. Donc, où est-ce que tu mets la limite? Est-ce que t'en parles des fois à certaines personnes dont t'es proche pour justement savoir si tu vas pas trop loin, pas assez loin?
Non, en fait, ben là déjà, j'ai pas de limite. Donc, en tout cas, elle est pas claire dans ma tête. En tout cas, ce que je connais le problème réel de Vauvert, que j'essaie de dévoiler petit à petit de livre en livre. J'ai pas envie d'aller trop vite non plus, parce que c'est aussi mon jeu personnel. Ça me plaît d'entretenir le mystère sur ce personnage-là, parce qu'il est entouré d'un mystère déjà, à la base, qui se protège beaucoup. Mais par exemple, dans le roman L'Enfant des cimetières, vers la fin du roman, on le voit en train de discuter avec un personnage qui est décédé, où il s'en rend compte plus ou moins, et bon, il essaie de chasser ça un petit peu de sa tête assez vite, puisqu'il y a d'autres choses plus urgentes à traiter. Mais c'est vrai qu'il a un don, c'est évident. Et j'aime bien avoir... ça fait pas partie des choses auxquelles je crois, mais en tout cas, je pense que dans la vie de tous les jours, on a ces petites bizarreries parfois où on se dit, mais il s'est passé un truc très étrange, c'était pas normal, mais bon, c'est pas grave, on va continuer. Et je pense que des sensations comme ça, on en a régulièrement, il me semble, dans nos vies quotidiennes. Et donc c'est ce sentiment-là que j'essaie d'effleurer de manière artificielle, puisque l'écriture c'est quand même une illusion totale, et que j'espère divertissante. Mais en tout cas, c'est aussi ce qui m'intéresse dans ce personnage-là, c'est qu'il n'est pas simple. Il se dévoile pas, mais en même temps, on sent qu'il y a pas mal de choses. Il y a ce mélange de brutalité dans son apparence et qu'il y a une immense sensibilité et donc cette capacité de capter des choses immatérielles autour de lui qui se dévoile petit à petit. Et je pense que je vais le faire durer encore un tout petit peu avant d'arriver vraiment là où je veux en arriver.
Pour Malcolm Swan, cet accident qui lui fait perdre le fait d'entendre de la musique, qui va finalement retrouver, en fait, en tout cas, il va avoir l'impression de réentendre de la musique sur certains moments qui sont en fait relativement désagréables pour lui à cause du jouet auquel il va être obligé de se prêter. Le choix des notes, est-ce que ça a une importance ou pas sur les accords qu'il entend, sur les mélodies qu'il entend?
Alors parfois oui, il entend notamment un morceau de musique qui a son importance, que je dévoilerai pas, mais effectivement à un moment donné, juste avant un meurtre, il se remet à entendre des notes de musique d'un lead très connu. Et on est en train de torturer un enfant juste à côté de moi, c'est pour ça les cris de bête. Et oui, c'est important, toujours dans cette espèce de langage que j'espère universel. Il n'y a pas de sens réel, mais on est vraiment dans un langage onirique. J'essaie vraiment à chaque fois d'effleurer l'inconscient collectif sur des thèmes qui sont là depuis très longtemps. C'est pour ça que je fais des références donc à des morceaux de musique très connus qui sont dans le patrimoine donc de l'humanité finalement. Sinon les notes, quand il entend juste quelques notes, ça me semblait approprié du point de vue de la couleur à ces moments-là. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'explique, mais parce que j'ai tendance moi-même à voir les sons en couleur. Donc, au moment où il entendait des notes ou des accords, c'est pas terriblement important pour l'histoire en elle-même. Ce sont des petits détails auxquels effectivement j'accorde une importance de maniaque, mais pour moi, en fait. Voilà, j'ai pas forcément envie de dévoiler non plus tout. C'est pour ça. Mais rien n'est laissé effectivement au hasard.
Le jeu s'installe tranquillement, de façon, en fait, j'ai envie de dire un peu comme un nœud coulant. Tu le vois pas arriver, mais au fur et à mesure, ça serre. Et du coup, on se retrouve avec ton roman qui, je trouve, est le plus thriller et le moins fantastique. C'est une volonté pour toi de te détacher un peu plus du côté fantastique, parce que il y a toujours des choses pas tout à fait, on va dire, habituel, mais en même temps, c'est vraiment que quelques petites touches.
Alors, je vais apporter une nuance, disons. En apparence, il y a moins de fantastique, en tout cas, il y a moins de surnaturel, il y a moins de créatures démoniaques qui surgissent dans le quotidien, puisque la comparaison avec le nœud coulant que tu as faite est très très bien trouvée, c'est exactement ça. Le livre commence de manière toute simple, anodine. Bon, il y a un problème, mais qui s'accentue, puis sur lequel se greffent d'autres problèmes de plus en plus graves. Les personnages dérapent, sont pris dans une spirale chacun de leur côté, et effectivement, tout se resserre, donc tout s'accélère et les choses dérapent de plus en plus. En ce qui concerne le fantastique, oui, il y a moins de surnaturel, mais finalement, ce livre, c'est peut-être le plus fantastique au sens strict du terme que j'ai fait de ma vie. Puisque la définition quand même du fantastique, c'est le moment où on doute. On ne sait pas si les éléments incroyables qu'on a vus se sont déroulés ou pas. Sinon, on est dans la fantaisie. Si l'acceptation est totale des créatures magiques, on est dans un monde imaginaire de fantaisie. Alors que le fantastique, on ne sait pas. C'est le hors-là. Voilà. Et donc, dans ce sens-là, ce livre, c'est vraiment le plus fantastique que j'ai fait de ma vie. Mais cela dit, il y a moins de monstres rugissants, en tout cas au début.
Sur la scène, entre guillemets, de combat, je voudrais savoir si tu t'es mis dans une ambiance particulière.
C'est-à-dire ?
Est-ce que t'as écouté une musique particulière pour te dire là faut que ça pulse, ou est-ce que t'as revu un film d'action particulièrement énergique, parce que c'est une séquence dans le roman qui est un ton au-dessus ?
Ben non, je me suis pas mis dans une ambiance particulière. C'est juste qu'en tout cas dans l'écriture à ce moment-là, donc on va pas dévoiler tout au lecteur de suite, mais Malcolm Swan effectivement se fait attaquer par surprise, et j'ai vraiment tout fait pour que, enfin j'espère, le lecteur ne voit pas la scène arrivait, pour miser sur l'effet de surprise et la violence du coup, sur un moment où on s'attend à du calme, et ça repart sur une scène très violente qui est pas très longue en fin de compte, et où effectivement, enfin qui se conclut par par des choses assez gore et sanguinolentes, auxquelles je reviens toujours quoi que je fasse. Je tourne autour et j'y retourne toujours parce que voilà, ça me plaît. C'est aussi une forme de divertissement que j'aime beaucoup. C'est arrivé, je pense, dans la structure du roman, ça me semblait important de mettre l'accent sur la brutalité à ce moment-là, sur le dynamisme soudain. Voilà, c'est du travail d'écriture comme tout le reste. En fait, l'ensemble du livre a été écrit comme ça finalement. J'essaye à chaque fois de surprendre le lecteur à ma manière, de manière à chaque fois différente. Sinon, on voit venir les ruses hein, de l'auteur. Et j'aime bien. En fait, le livre a été écrit aussi comme une composition musicale. Hein. Un petit peu, il y a une introduction, il y a un premier mouvement. C'est un crescendo, donc ça s'accélère de manière assez régulière et ça ralentit jamais. En revanche. Donc même les faux moments de calme, c'est pour mieux préparer l'assaut suivant jusqu'au final, voilà, qui s'arrête net. C'est ce que j'ai avec une coda. C'est vraiment comme ça que j'ai essayé d'écrire ce livre-là.
Est-ce que tu penses réutiliser d'autres légendes, on va dire françaises, du sud de la France dans tes prochains romans?
C'est difficile de te répondre comme ça puisque je ne prévois jamais rien à l'avance. C'est vraiment quand, au moment de l'écriture où les éléments se mettent en place, la seule chose que je sais pour le prochain, que je commence à peine à écrire, c'est que ce sera la suite directe du roman de Fièvre et de Sang, qui mettra à nouveau en scène donc le commandant Eva Svarta et sa relation avec Alexandre Bovard, entre autres. Et une rencontre très mouvementée entre donc cette flic albinos et son papa. Mais du point de vue de tous les éléments qui se greffent sur l'histoire, je les découvre moi-même au fil de l'écriture. J'ai mon point de départ, j'ai en général une fin où je veux arriver, ou en tout cas une idée finale, et je laisse vraiment les personnages se développer et la structure en fait se met en place au fur et à mesure. Disons que j'ai un premier jet fleuve quand j'écris, après quoi je coupe beaucoup, je coupe quasiment un tiers de ce que j'ai écrit dans mon premier jet pour arriver vraiment à ce fameux rythme auquel je tiens et réussir à faire en sorte que d'une scène à l'autre, les enchaînements soient totalement naturels, enfin en tout cas qu'il y ait une illusion de naturel et que le livre soit le plus fluide possible, que l'action soit balancée très rapidement ou que, comme dans celui-ci, les premiers chapitres soient plus lents. J'ai quand même envie que le lecteur tourne les pages sans avoir envie de s'arrêter. Donc tout ça, c'est beaucoup de boulot et c'est des techniques différentes à chaque fois. Donc je peux pas te répondre juste là sur ce que je ferai par la suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que effectivement, oui, les petites légendes urbaines, les anomalies du quotidien, les bizarreries de l'être humain qui peuvent être énormes et caricaturales ou tout en nuances, me passionnent. Parce que c'est l'être humain qui est comme ça et j'ai encore vu des gens très étranges dans le métro il y a quelques jours à Paris, notamment un gars. Je sais qu'il apparaîtra dans mon prochain roman. Juste le look qu'il avait, quoi, le décalage entre... Des petits détails de son anatomie et de la manière dont il était habillé. Je sais que ça sera un personnage dans le prochain roman parce que voilà, c'est des petites choses comme ça que je pique au réel, que j'injecte dans ma création délirante.
Un petit mot pour finir sur l'ambiance du festival, parce qu'on est dimanche en fin d'après-midi.
C'est génial. J'adore Trolls et Légendes. Non, mais c'est la troisième fois que je suis invité. Les concerts le soir sont extraordinaires. Hier, il y avait Fun, qui est un groupe absolument génial. C'est blindé de monde, tout le monde est souriant. Les gens viennent en famille. C'est bon enfant. L'accueil est irréprochable. Vraiment, j'adore ça. La Trolls qui coule à flot est très très bonne. Rien à redire. J'espère que je reviendrai.
Merci.
Avec plaisir, salut.